Direction d'Europe, Catherine Roland.
Bienvenue. Voilà une semaine décisive et grave qui s'annonce pour la Catalogne et toute l'Espagne. Jeudi, le Parlement catalan devrait donner sa réponse à Mariano Rajoy et sa décision d'utiliser l'arme de l'article 155. Vendredi, c'est le Sénat, lui, qui devrait voter à Madrid cet article qui permettra une gestion directe de la région sécessionniste et une destitution du président Carles Puigdemont. Un représentant unique pourrait même être nommé par Madrid pour gérer la Catalogne. L'article 155 n'avait jamais été utilisé jusqu'ici. Dans la capitale espagnole, on craint que la crise ne s'envenime encore, mais le gouvernement espagnol avait-il vraiment le choix ? Yann Cambon a recueilli le sentiment de Madrilène.
La mainmise sur la Catalogne par le gouvernement est une décision qui dérange et soulage à la fois les Espagnols. Pour beaucoup, l'application du redouté article 155 de la Constitution, qui place cette région sous tutelle, est un moindre mal pour un retour à la normalité en Catalogne. C'est l'avis de Juan Rosset, un commerçant d'une trentaine d'années, pour qui le projet indépendantiste devait être stoppé au plus vite.
Je crois que cela a été une mesure un peu exagérée, mais c'est la seule façon pour que la Generalitat, le gouvernement catalan, revienne dans la Constitution. Il fallait freiner cette dérive sans issue. Les indépendantistes n'ont eu aucun appui international et on a l'impression qu'ils ne savent pas vers où aller.
Les conséquences de l'enclenchement de cet article sont une inconnue. Les mesures prises par le pouvoir central vont-elles freiner le séparatisme catalan ? Pedro ne croit pas que le conflit puisse se résoudre avec la convocation d'élections catalanes dans les 6 mois prochains.
Il est possible que les actuels dirigeants catalans ne remportent pas le scrutin, mais je doute qu'ils permettent d'organiser des élections régionales comme si de rien n'était. Et puis il faut rappeler quand même que les séparatistes ont gagné les élections il y a peu, donc rien ne garantit qu'en les retirant aujourd'hui du pouvoir, ils ne vont pas revenir et que tout aille en s'arrangeant.
Ce qui est certain chez de nombreux Espagnols, c'est qu'il existe un malaise profond avec la Catalogne, qui prendra beaucoup d'années avant d'être résorbé. Diane Cambon, Madrid, RFI.
W homofobii zawiera się nie tylko nienawiść czy strach przed homoseksualistami.
C'est un fait de société inquiétant en Pologne. L'homophobie progresse. Le suicide d'un adolescent de 14 ans fin septembre a bouleversé le pays et a provoqué le débat sur l'homophobie à l'école. Maya Szymanowska est allée voir les victimes et les organisations LGBT qui luttent depuis longtemps contre le harcèlement des homosexuels dans le milieu scolaire.
J'ai été battu au collège, méchamment battu, par mes camarades.
On me bousculait dans les couloirs une ou deux fois, on a essayé de me pousser dans les escaliers. On a même créé une fausse page Facebook à mon nom.
Très souvent, quand je dois parler devant toute la classe lors d'un exposé ou appeler au tableau, ils rient de moi, de ma manière de parler, de mes gestes, du ton de ma voix. Souvent, je demande durant le cours à aller aux toilettes. Et je reste là, durant 10 minutes, enfermé, à pleurer.
Ces témoignages ouvrent le nouveau spot de la campagne contre l'homophobie organisée par le quotidien Gazeta Wyborcza pour s'opposer aux agressions contre les jeunes LGBT. Maciej, 27 ans, Utsia, 16, Cayetan, 30 ans ou Tristan, 18, tous ont subi ou subissent le harcèlement. Dans ce clip, il parle très courageusement à visage découvert pour briser l'omerta qui pèse sur ses agissements. Car le jeune Kacper, qui s'est pendu tout au début de l'année scolaire, est loin d'être le seul adolescent harcelé pour son homosexualité. Conséquence, des jeunes homosexuels ont des pensées suicidaires, selon une étude réalisée par les organisations luttant pour les droits des LGBT en Pologne. Ce que confirme Utsia.
C'est un moment qui peut durer des semaines ou des mois. On va à l'école et quand on en revient, on passe devant un pont et on se demande si on ne va pas sauter. C'est ça la réalité de notre quotidien.
Merci beaucoup.
Le passage à l'acte de Kacper a suscité une vive émotion dans le pays. Dans plusieurs villes, des jeunes ont manifesté contre le harcèlement des homosexuels à l'école. À Varsovie, ils étaient plusieurs dizaines de jeunes rassemblés devant le ministère de l'Éducation avec des pancartes et ses inscriptions. Je vis encore car j'ai une famille aimante, un ami, quelqu'un qui me comprend. Tous n'ont pas cette chance. À quelques rues de là, au centre de Varsovie, dans un joli immeuble ancien, se trouvent les bureaux de l'organisation Lambda. Cette association lutte contre l'homophobie depuis près de 20 ans. Piotr Godzisch, un de ses fondateurs, est particulièrement investi dans la lutte contre l'homophobie à l'école.
Beaucoup d'enseignants nous contactent. Ils nous disent que dans leur établissement, il y a un problème avec l'homophobie, que personne ne veut le régler et que même ne savent pas très bien ce qu'ils peuvent faire. Ils se tournent alors vers des organisations comme la nôtre. Nous les aidons. Si on peut, on organise des formations et surtout des campagnes d'information. Elles visent d'abord les élèves. On leur explique que des numéros verts existent et on leur apprend comment réagir s'ils sont victimes de harcèlement, lorsqu'ils en ont parlé à leurs profs et que personne n'a réagi. Mais on aide aussi les enseignants à trouver les informations précises sur ce que c'est que l'orientation sexuelle, comment agir contre les comportements homophobes et comment faire de l'école un lieu accueillant pour tous les enfants.
Cependant, malgré les efforts de l'organisation Lambda et d'autres, comme de la campagne contre l'homophobie, Campania Przeciw Homofobii, la société polonaise n'est pas très bienveillante pour les personnes LGBT. Analyse du sociologue et écrivain Rémi Ryżinski.
Nous pouvons le dire sans hésiter, malheureusement, nous assistons à une recrudescence de comportements homophobes. Ça peut étonner car depuis les années 90, l'acceptation des milieux LGBT était de plus en plus forte et on avait l'impression que les choses allaient dans le bon sens. Mais à cause du silence et de l'acceptation des comportements homophobes par la nouvelle équipe au pouvoir, par certains médias et par l'Église bien sûr, eh bien l'homophobie est de retour et elle est encore plus agressive qu'avant.
Les bureaux de l'organisation Lambda ont été attaqués à plusieurs reprises depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir. Ils ont dû retirer de la façade le drapeau arc-en-ciel, symbole de la gay pride, de la fierté homosexuelle, sous la pression des voisins. Et dans le débat autour de la mort de Kacper, une voix a beaucoup dérangé, celle de la députée conservatrice qui a accusé les milieux de gauche d'utiliser la mort du jeune homme pour parler des homosexuels. Dans ce débat sur l'école, pour Rémi Ryżinski, l'important est le rôle de l'Église. Et l'Église catholique ne tient pas le beau rôle, selon l'écrivain.
À l'école publique, actuellement, il y a 2 heures de cours de religion par semaine. Il n'y a rien de mal à ça, mais on y enseigne une religion qui nie toutes les différences d'orientation sexuelle et les taxes de péché. Et ça n'aide vraiment pas les personnes LGBT à s'accepter et à fonctionner dans la société.
Et cela ne s'arrange pas, le gouvernement conservateur a rayé des programmes l'obligation d'enseigner la tolérance, une notion jugée inutile, voire dangereuse par les conservateurs.
Créer une armée européenne, un vieux rêve des pères fondateurs, un rêve qui devient urgent à réaliser après les menaces du président américain sur l'OTAN. Jusqu'à présent, la peur de perdre la main sur son armée nationale a toujours été la plus forte. Malgré tout, Eurocorp a vu le jour, créé en 1992. 5 pays, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne, envoient des contingents à l'Eurocorp. Le corps d'armée est au service de l'Union européenne et de l'OTAN. Il mène des opérations de soutien, comme en Centrafrique, après l'opération Sangaris menée par la France. Mais comment peut-il fonctionner avec autant de langues et de cultures différentes? Maxime Noche est allé au siège à Strasbourg.
À l'Eurocorps, on entend parler un peu toutes les langues, mais à 7h45, pour le rassemblement quotidien des troupes, retour à l'anglais. Tous les matins, les soldats reçoivent leurs consignes de la journée. Pour certains, ça va être rangement du matériel et des armes qui reviennent de Centrafrique.
C'est bon, il y a quelqu'un à l'armurerie ou pas? Ils ont sorti les caisses?
Cette capitaine française de l'armée de terre rentre de mission en Centrafrique et pour elle, c'était la première fois qu'elle partait avec l'Eurocorps.
Je faisais partie d'un pool d'instructeurs qui étaient là pour former les cadres militaires centrafricains. Donc j'ai été particulièrement dévolue à la formation des officiers, notamment ceux qui aspirent à avoir des hautes responsabilités, qui préparent des concours, ce genre de choses.
Pour sa première avec le record, la capitaine a dû s'adapter à d'autres manières de faire.
Mon adjoint était espagnol. Je sais qu'on a eu un petit accrochage, justement. Selon les nations, on a des manières de se rassembler qui sont différentes. C'est le rassemblement du matin, mais également pour les cérémonies. Et il ne comprenait pas pourquoi je voulais faire différemment que lui. Donc ça a été effectivement un exemple qui peut illustrer parfois les tensions qui peuvent naître d'incompréhension, toutes bêtes, mais au final, effectivement, qui peuvent engendrer des fois de la tension. J'étais très intéressée par le travail en multinationale, le fait d'apprendre des langues étrangères, de côtoyer d'autres nations. Et donc, c'est ce qui était important pour moi, en fait, à cette affectation. Alors, actuellement, ils utilisent une soufflette pour pouvoir sécher, on va dire, la partie de l'armement après nettoyage. Un des domaines les plus importants où il faudrait effectivement s'investir, c'est sur la réglementation. Il n'y a pas de statut d'un soldat européen. Alors on a un règlement commun, effectivement, mais après pour on va dire la vie quotidienne, on est quand même astreint à suivre les réglementations nationales. Et c'est parfois un casse-tête pour trouver des compromis.
Ce colonel belge en train de laver son arme rentre aussi de Centrafrique. Les particularismes nationaux, lui, il les voit tous les jours.
Dans mon bureau, il y a un drapeau belge et il y a le portrait du roi et de la reine. Si je vais chez mon supérieur, par exemple, qui est allemand, eh bien je vais retrouver le drapeau allemand et je vais retrouver la photo du président allemand.
Si ce colonel reste belge avant tout, ça ne l'empêche pas de travailler avec des soldats venus d'autres pays, contrairement à certains de ses homologues.
J'ai certains de mes camarades qui n'ont jamais servi en international et qui sont pas très chauds pour le faire parce qu'on quitte sa zone de confort et on est confronté à d'autres habitudes. Les relations et la façon de travailler n'est pas la même que dans l'unité nationale. On est moins direct. On doit souvent prendre la peine de mieux expliquer, de plus expliquer, pour être bien sûr que mon homologue, par exemple mon homologue français ou mon homologue allemand, eh bien, je vais rester du début jusqu'à la fin sur la même longueur d'onde.
C'est vrai que ces différences de langue, de culture, de réglementation sont autant de freins à la création d'une véritable armée européenne. Un simple exemple, le président français peut décider seul d'envoyer des troupes à l'étranger. En Allemagne, c'est beaucoup plus complexe, le Parlement doit donner son accord. En attendant, l'Eurocorps permet au moins à des petits pays d'intervenir à l'international.
En tant que Belge, donc, les capacités militaires nationales, il faut quand même être réaliste, sont relativement réduites. Donc ça veut dire que l'armée belge, pour pouvoir pleinement remplir son rôle, eh bien, doit participer à des opérations de niveau multinational ou international.
Tous les deux ans, un nouveau général est nommé à la tête de ce corps européen, un vrai roulement puisque ce général est issu d'un des 5 pays membres. En septembre dernier, c'est un officier allemand qui a pris le commandement du corps armé. Une passation de pouvoir entre Jürgen Weigt et l'espagnol Alfredo Ramirez, officialisé au Parlement européen de Strasbourg. Jürgen Weigt qui expliquait alors son engagement.
J'ai la conviction que les opérations que nous menons au niveau multinational, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer à travailler ensemble, ne pourront que nous faire progresser. Pour moi, ça a plus de sens d'être à la tête de l'Eurocorps que de rester dans mon armée nationale.
Pour Jürgen Weigt, c'est clair.
Nous ne sommes pas une armée européenne. En fait, nous sommes une sorte de test grandeur nature de ce que serait une armée européenne, avec tous les avantages et toutes les conditions qu'il faudrait remplir.
Des conditions qu'Emmanuel Macron avait sûrement en tête pendant son discours sur l'Europe à la Sorbonne le 26 septembre dernier.
Au début de la prochaine décennie, l'Europe devra ainsi être dotée d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir.
Des objectifs ambitieux et un discours volontariste du président français, mais qui masque les énormes obstacles pour y parvenir, car il faudrait déjà que les États européens acceptent d'abandonner une partie de leur souveraineté nationale, impensable pour beaucoup de pays. Dernier exemple en date, la Pologne devait devenir le 6e pays à la tête de l'Eurocorps, mais le gouvernement polonais est revenu sur sa décision en mars dernier, et le général Weigt n'a pas d'autre choix que de faire avec.
C'est le principe même de l'Eurocorps, de devoir se plier aux décisions politiques. Je trouve ça très regrettable, mais c'est comme ça que ça marche.
Reste que l'Eurocorps est un outil d'expérimentation très efficace pour une future défense européenne commune, au moins en attendant que les États européens acceptent de céder des pans de leur souveraineté. Peut-être que les menaces de Donald Trump de réduire l'investissement américain dans l'OTAN pourraient faire accélérer les choses.
Salut les Européens! Bienvenue dans Vox Pop, le magazine à la fois polémique et positif.
L'Europe, on n'en parle pas beaucoup hein, sur les grandes chaînes de la télévision française, à l'exception d'Arte, la chaîne franco-allemande. Sur Vox Pop, chaque samedi soir, le journaliste Jean-Paul Lepers essaie de rendre l'Europe plus vivante à travers deux grands thèmes traités en reportage et en débat. Il faut dire que Jean-Paul Lepers se sent profondément européen.
Moi, je trouve ça essentiel d'aller vers les autres qui sont nos voisins. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais que le mur de Berlin s'effondre. C'est arrivé. Je rêvais qu'une Europe se fasse. C'est arrivé. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'écoute pas les Européens? Pourquoi on va pas plus vers eux? Parce qu'on se referme sur nos frontières. Ça m'énerve. Moi, je suis d'origine anglaise, un peu d'italien, même un petit peu d'allemand, du belge. Et donc, je me dis, j'ai envie, moi, d'aller voir en Europe qu'est-ce que nous, les Français, on peut leur apporter, mais aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter.
Alors, votre pari, hein, évidemment, hein, c'est de rendre l'Europe intéressante pour nos concitoyens. C'est quoi la formule pour attirer les téléspectateurs?
On se dit, on va pas être institutionnel parce que les institutions européennes sont intéressantes, mais en même temps, elles sont très rébarbatives. On va attaquer, nous, la société européenne avec ce qu'elle a à la fois de complexe, mais aussi tous les points communs. On se rend compte d'abord qu'on a plein de points communs, nous les Européens. Il y a quand même une communauté, je trouve. Donc aller chercher ça, qu'est-ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Et puis, moi qui j'étais plutôt spécialiste de la politique française, donc aller porter mon micro vers des responsables politiques et les embêter. En fait, on s'aperçoit que tout le monde fait ça. Et moi, il se trouve qu'aujourd'hui, je vais aller embêter des responsables allemands qui sont beaucoup moins connus, ou des responsables en France, ou des Italiens, ou en Pologne aussi, aller voir des gens et leur poser des questions d'Européens. Sauf que là, on apprend quelque chose. Et donc, je pense que notre public, qui n'est pas énorme, mais qui est en train de monter, qui augmente, notre public se dit, tiens, là, j'aurai de toute manière des choses que je n'aurais pas ailleurs.
Alors, quand on vous écoute, là, vous parlez d'embêter notamment certains responsables européens. Ce qu'on comprend, c'est que vous ne voulez pas non plus donner une vision consensuelle, totalement béate de l'Europe, même si vous vous sentez profondément européen.
Bon, heureusement, les journalistes, hein, on est des emmerdeurs. Avec le sourire, hein, faut être respectueux bien sûr, mais notre boulot c'est de poser les questions, la contradiction, et puis là où ça fait mal, mais en même temps on va aller chercher ce qu'il y a de positif.
Alors, je vais donner quelques exemples de sujets que vous avez traités récemment. Donc, il y a la question de l'héritage en Europe, l'immortalité, vaste question. Encore la privatisation des prisons ou l'accueil des migrants. Comment est-ce que vous choisissez les sujets que vous allez traiter?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions d'écologie, beaucoup les questions de démocratie. Je trouve qu'il faut qu'on affronte ce désamour pour la politique par des ouvertures démocratiques qui sont aujourd'hui en cours. Notamment, on va aller à Saillant, dans la Drôme. On va rencontrer des habitants qui ont décidé de créer une forme de pouvoir horizontal. Il se passe du chef. C'est-à-dire que le maire n'est pas plus important que les autres. C'est pas des solutions pour le monde, mais c'est des maillages. Il y a plein de villes qui font ça en Europe et on fait la liaison avec nos correspondants et donc on comprend qu'il est possible de réinventer une forme de politique. Après, on va bien sûr aller sur des sujets qui sont sur la pauvreté, par exemple, ou sur le chômage, ça nous intéresse. En Grande-Bretagne, on dit qu'on a résorbé le chômage. Il y a aussi une paupérisation de la société, d'ailleurs en Allemagne également, et puis on est inhumain avec les chômeurs. Et donc on montre cette inhumanité de l'administration, qu'on a bien vu dans moi Daniel Blake, et on le voit qu'aujourd'hui c'est encore vrai, et c'est de plus en plus vrai. Donc on est à la fois engagé, vous voyez, dans des valeurs qui sont des formes de valeurs de démocratie, d'humanisme.
Des valeurs européennes aussi.
Européennes, bien sûr. Et puis on cherche une autre forme de démocratie, de façon de faire, de vivre ensemble.
Vox Pop tous les samedis soirs sur Arte. Accent, c'est déjà fini jusqu'à demain. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, Françoise Grelot et Ludivine Amado. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Demain, on parlera de l'EFSA, l'agence de sécurité sanitaire des aliments, l'agence européenne en pleine tourmente. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques instants journal.